Bonjour Étienne Smith.
Bonjour.
Vous venez de publier aux éditions Ellipse un ouvrage intitulé L'Afrique, histoire et défis. C'est un atlas, mais c'est un atlas particulièrement original. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Bon, l'idée justement, c'était pas de se limiter à ce misérabilisme, maladie, famine, guerre, coup d'État, c'était de montrer la créativité du continent à l'heure actuelle. Donc il y a par exemple une carte sur les confluences musicales. Le grand public peut connaître Youssou N'Dour, peut connaître Salif Keita sans vraiment savoir quel pays, quelle langue, etc. Donc l'idée, c'était de mettre ça sur une carte pour que les gens puissent visualiser. Ce sont des circulations musicales de la musique cubaine, afro-cubaine des années 50 vers l'Afrique de l'Ouest, qui en retour retourne vers les États-Unis, qui après retourne en Europe sous forme, en Afrique sous forme de jazz, puis dans les années 80 sous forme de rap. Donc montrer que là encore, l'Afrique n'est pas une entité close et fermée au reste du monde, mais qu'il y a des circulations permanentes depuis toujours entre le continent et le reste du monde.
Parmi les choses très originales, vous avez dressé une carte de l'Afrique selon Amadou Kourouma, l'écrivain Amadou Kourouma. Parlez-nous de cette carte.
Alors cette carte, j'ai essayé de représenter en fait à travers les différents romans de Amadou Kourouma, les pérégrinations des héros de ses ouvrages, notamment En attendant le vote des bêtes sauvages, donc son ouvrage sur Koyaga, qui est un apprenti dictateur, chef d'un état imaginaire, mais qui en fait correspond au Togo des Yadema Père, et qui fait une espèce de quête initiatique dans toute l'Afrique pour rencontrer les chefs d'état de l'époque, Haïlé Sélassié, Hassan II du Maroc, ou Houphouët Boigny en Côte d'Ivoire. Et donc j'ai voulu montrer le périple pour voir si on pouvait visualiser l'espace de la France-Afrique de l'époque, puisque Kourouma, dans cet ouvrage, est assez critique vis-à-vis de la France et a voulu montrer comment les chefs d'État de ce qu'on appelait la France-Afrique se donnaient des conseils, etc., pour bien gérer leur pays.
Alors justement, on parle de France-Afrique et vous avez dressé une carte de la France-Afrique qui est très intéressante. C'est quelle France-Afrique? C'est la France-Afrique politique, économique, militaire?
Alors j'ai surtout insisté sur la France-Afrique politique et militaire, en dressant un état des lieux sur les 50 dernières années des ingérences politiques et militaires de la France dans ses ex-colonies.
Vous avez aussi, à travers une série de cartes, étudié les mouvements européano-centrés et les mouvements africano-centrés. Qu'est-ce que vous a permis de découvrir justement sur ces mouvements culturels et ces réactions à certains mouvements culturels, ces cartes?
Alors, il y a une carte sur l'Afrique imaginée par les raciologues européens au 19e siècle et une carte sur l'orientation afrocentriste actuelle de l'Afrique. Alors, la première carte, c'était intéressant de voir l'évolution du regard européen sur l'Afrique. Parce que si on lit les récits d'explorateurs, par exemple, au 17e, 18e siècle sur l'Afrique, comme à Mungo Park, par exemple, qui se rend en Afrique de l'Ouest, ils ont une vision de l'Afrique et le vocabulaire qu'ils emploient qui ne l'oppose pas à l'Europe. Ils parlent de princes, d'assemblées, d'États, de sociétés, de peuples. Et avec l'avènement de la conquête coloniale à la fin du 19e siècle, les explorateurs ont une vision de l'Afrique qui, là, devient peuplade, tribu, société sans État et sans histoire. Donc, par ces cartes-là, j'ai voulu montrer l'évolution du regard européen qui se cristallise à la fin du 19e siècle dans une vision raciologique du continent où on découpe l'Afrique en différentes strates raciales qui se seraient empilées à travers l'histoire et au sommet de laquelle il y aurait bien sûr la supposée race blanche. Ensuite, j'ai voulu montrer
La réaction.
la réaction, l'Afrique des afrocentristes qui est en réaction à l'eurocentrisme mais qui finalement partage beaucoup de ces errements, en voulant finalement simplement inverser les catégories raciales du colonisateur plutôt que les déconstruire. Et donc on a les travaux de Charanta Diop et d'autres afrocentristes qui finalement noircissent toutes les populations du bassin méditerranéen pour montrer que la race noire a contribué de façon décisive à la civilisation européenne. Donc finalement, une inversion du regard.
À côté de ça, on a des cartes très modernes comme l'Afrique du football, l'Afrique des NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ça n'avait jamais été fait, ce genre de carte.
Non, alors l'Afrique du football, d'ailleurs, c'est grâce à RFI qu'elle a pu être produite, parce qu'en suivant les
Merci.
émissions d'RFI, Afrique Football. Et l'Afrique des TIC aussi, là, c'était un défi de représenter, par exemple, la fibre optique, le réseau de fibre optique en Afrique, le nombre de connexions Internet, etc. On voit, en voyant cette carte sur l'Afrique des TIC, on voit l'ancrage dans la modernité de l'Afrique à travers cette carte.
L'une des spécificités de l'ouvrage aussi, c'est de s'intéresser à un siècle charnière, le 15e, 16e siècle. Pourquoi?
Alors l'intérêt de cette période, c'est qu'elle est précoloniale, puisque la plupart des ouvrages sur le continent africain, les manuels scolaires par exemple, finalement nous présentent l'Afrique qu'à partir du 19e siècle. Là, l'idée, c'est de revenir à ce qui s'est passé avant, la période 15e jusqu'au 19e siècle, qui n'est pas une période de conquête coloniale, qui est une période où les Européens ont des comptoirs sur les côtes africaines, et il y a des rapports finalement assez égalitaires entre sociétés locales et sociétés européennes dans le commerce, y compris la traite négrière, et donc finalement des rapports sociaux qui n'étaient pas marqués de façon unilatérale et univoque par la domination de l'un sur les autres. Et une période qu'on a finalement tendance à oublier, où les Européens n'étaient que des forces d'appoint dans les stratégies locales des sociétés locales, par exemple des princes mandingues ou des princes wolofs qui appellent tel ou tel corps expéditionnaire européen pour venir intervenir dans leur guerre locale, et donc montrer que le moment colonial est à relativiser. Et que finalement, à la fois, il y a eu toutes les polémiques en France sur le rôle positif ou négatif de la colonisation. Là, en refaisant une plongée dans le passé de l'Afrique, l'objectif était de montrer que finalement, ces deux thèses qui insistent sur le rôle positif ou sur le rôle négatif de la colonisation surestiment finalement le moment colonial dans son importance, comme s'il avait été, certes, il a été décisif, mais il ne détermine pas tout l'héritage de l'Afrique qui est bien antérieur, et y compris l'héritage des relations entre l'Afrique et l'Europe qui n'ont pas toujours été marquées par la relation de domination de l'époque coloniale.
Merci beaucoup, Étienne Smith.
C'est moi qui vous remercie.